Versatible.
Attention.
Attention.
Irréversible.
Minouli, de ce pétage.
Émission prévisible, émission à la seconde près.
Donc, et là.
Bienvenue dans l'émission Imprévisible. Ici, rien n'est écrit, tout est possible. Embarquez pour une demi-heure dans l'inconnu d'une émission totalement improvisée.
Bonjour et bienvenue dans la dernière émission Imprévisible de 2023. C'est passé si vite. Dans cette émission, nous parlerons d'hiver, évidemment, mais aussi des fêtes de fin d'année. Alors là, autour de la table, il y a Carolina.
Salut!
William.
Hello.
Gaël.
Bonjour.
Charlotte.
Bonsoir.
Et Isabelle à la technique. Elle ne peut malheureusement pas parler, Isabelle, car elle a fait vœu de silence très récemment. Nous verrons si elle tient cela.
Elle est en avance pour janvier.
Ouais. Est-ce qu'elle va tenir tout 2024? C'est pas sûr. Ben justement, on va parler du passage à la nouvelle année, de 2024 qui arrive et de la fin de 2023.
Ah oui, je vous traite de malhonnête.
Mais moi, je suis pas d'accord avec vous.
Vous avez quelque chose à ajouter?
Non, c'est bon, là, ça va.
Des arguments en rafale, des voix qui s'échauffent. C'est parti pour le débat.
Mais avant de se lancer dans ce débat endiablé, je voulais vous faire écouter un petit micro-trottoir que j'ai fait dans les rues de Nantes. Un petit peu, voilà, j'avais envie de prendre l'air. Allez, on écoute ça. Alors, quelles sont vos bonnes résolutions pour 2024?
Alors moi, j'ai prévu d'essayer d'arrêter de fumer la moquette, mais littéralement ma moquette. J'ai bientôt plus de quoi mettre mes pieds sur une surface de douceur. Et le médecin m'a dit qu'il faut vraiment arrêter de fumer la moquette. Alors voilà, c'est ma résolution pour 2024.
Moi, j'essaye de diminuer ma consommation de Kouign-Amann. Donc là, j'étais à 3 par jour. Et je vais essayer de passer à 2.
Moi, ma résolution, c'est de faire le dry January. Mais du coup, là, je picole. Je picole à fond tous les soirs. Parce que 1er janvier, fini.
Moi, ma résolution, c'est de retourner à la salle parce que finalement, j'ai pris un abonnement le 1er septembre et depuis le 10 septembre, j'ai oublié d'y aller. Voilà, donc je suis molle de ça.
Ma résolution, ça a été de me dire que j'allais envoyer une carte postale à tous les gens que j'aimais. Faut que je fasse la liste, quoi. Excusez-moi, j'y vais.
Ma résolution, c'est vraiment de quitter mon mari que je ne supporte plus. Alors si tu m'écoutes, ce serait bien que tu t'en ailles.
Alors moi, je voudrais dire à tous les camarades qui m'écoutent que la politique de gouvernement, c'est pas possible. Et je voudrais avoir comme résolution une meilleure démocratie.
Ma résolution, c'est d'aller demander une augmentation pour moi et puis pour toutes mes collègues. Voilà, parce que quand même, ça fait 4 ans qu'on trime et on n'a toujours pas vu la couleur d'une augmentation. Alors que bon, l'inflation, enfin bref, vous connaissez quoi.
C'est has-been les résolutions.
Une idée, moi, c'est qu'il y ait une loi qui soit votée pour qu'il y ait plus de beurre de cacao dans le cacao. Parce que chocolat vide, eh ben, c'est décevant.
Et j'espère que ce micro-trottoir vous aura intéressé. Moi, ça m'a fait réfléchir justement à mes bonnes résolutions. Je me rends compte que je n'en ai toujours pas prise. Heureusement, le mois de décembre n'est pas terminé. Alors, nous allons faire une petite rétrospective sur l'année qui vient de se terminer, hein, sur 2023, avant de partir sur 2024. J'aimerais savoir quel est, pour les personnes qui sont autour de cette table, l'événement marquant de 2023. Donc, pour en discuter avec nous, nous aurons une journaliste de BFM TV.
Bonjour.
Un écrivain.
Bonjour.
La directrice du CNRS.
Bonjour.
Et une volontaire en service civique. Bonjour. Et maintenant, je vais vous laisser entre les mains de William pour ce débat.
Oui, alors merci à vous d'avoir bien voulu rejoindre notre enquête pour ce débat qu'on espère de haute volée. J'espère que vous êtes capables, voilà, de pouvoir débattre dans le calme pour une qualité envers nos auditeurs et auditrices qui veulent comprendre quel est le meilleur événement de l'année 2023, un enjeu mondial pour cette nouvelle année qui débouche, des conséquences peut-être à anticiper. Nous avons avec nous donc une journaliste de BFM, Marisol Evilla. Marisol Evilla, bonjour. Est-ce que vous avez déjà de quoi dire un événement marquant pour cette année 2023 pour commencer peut-être le bal avec nous?
Et évidemment, évidemment, pour moi, l'événement, bon, même si vous savez qu'à BFM, premier sur les informations, nous avons tous les jours énormément d'événements marquants, mais pour moi, le plus fort restera l'attente de l'ouverture devant la porte du Primark de Nantes. C'était incroyable. Nous sommes arrivés au moins 12 heures avant l'ouverture, minute après minute, rien ne se passait, c'était vraiment incroyable.
J'y étais.
Vous y étiez, hein, vous êtes donc service civique dans eh bien, ce Primark en question. Vous pouvez donc être témoin de cette scène qu'évoque à l'instant notre journaliste Marisol. Est-ce que vous pouvez nous en parler de l'intérieur ?
Bah oui, en fait, je suis en service civique là-bas parce que c'est vraiment, enfin, c'est comme un projet associatif, en fait, ça apporte de la joie aux gens. Puis on sait que, voilà, c'est que des vêtements qui sont créés avec amour, hein, par les personnes qui les produisent. Et donc, du coup, quand les gens sont entrés au bout de 2 heures, il y a eu quand même une explosion de joie. Donc, quelques blessés, mais de la joie, hein, vraiment.
Mais des blessés qui ne sont pas arrivés par hasard, car BFM TV, premier sur l'information, nous, il y avait effectivement des terroristes écologiques qui étaient là pour détruire certains vêtements, n'est-ce pas ? Notamment les pantalons.
Alors, je vous interromps, Eva Chicon, puisque j'aimerais entendre sur cette question particulièrement de l'écoterrorisme dans un contexte, voilà, commercial de Primark. Est-ce que notre chercheuse au CNRS, Philippine De Gola, pourrait nous indiquer, eh bien, voilà, quelques inputs un peu empiriques sur ce que ça peut être, voilà, l'écoterrorisme aujourd'hui en France en 2023. On en a beaucoup parlé déjà. Je vous écoute.
Merci de me donner la parole. Oui, en effet, Nantes est un terreau pour plusieurs groupements politiques, notamment à visée écologique. Alors, le terme d'éco-terroriste est assez discuté, je dois dire. Cependant, effectivement...
Ne mentez pas à la France, dites la vérité, ne mentez pas à la France.
Alors, madame, écoutez, vous êtes certainement orientée, hein, dans votre journal. Là, nous, on essaye d'être neutre et d'être scientifique. Donc là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a donc un groupe de personnes qui s'organisent, eux qui ont peut-être décidé de couvrir de feuilles les vêtements de Primark.
C'est hyper chiant, merci beaucoup d'avoir pris cette parole, merci beaucoup. On vous écoute, j'ai oublié ce que vous foutiez là, alors est-ce que vous pouvez nous le rappeler, s'il vous plaît, monsieur? Je crois que vous vous appelez Henri, selon mes notes, Henri Silon, c'est bien ça?
Exactement, Henri Silon. Alors je vous rappelle, en fait je suis écrivain. Et justement, c'est intéressant que je sois là parce que je regarde ces événements un peu d'une manière littéraire, vous voyez. Et je pense que la littérature et la langue française peuvent apporter un éclairage complètement nouveau sur les problématiques qui sont rencontrées et qui ont déjà été un petit peu évoquées par les différents intervenants. À votre
alors, une perle de sagesse, une perle de sagesse, monsieur.
Une perle de sagesse, voilà, on a entendu parler d'éco-terrorisme et de terreau. Et c'est là qu'est le lien étymologique. Le terreau, c'est l'éco-terrorisme, le terrorisme du terreau qui vient en fait, au milieu du débat pour transgresser, pour transformer le terrorisme en terreau d'une société qui serait différente.
C'est ce que BFM TV avait remarqué, on a effectivement jeté de la terre sur les vêtements également.
Je pourrais ajouter qu'il y avait également la déclamation d'un poème, mais vous ne m'avez pas laissé finir tout à l'heure, ce qui me contrarie, notamment que ce poème était issu du XVIIIe siècle. Donc quand même, il y avait des visionnaires au XVIIIe siècle.
Des soulèvements de la terre au soulèvement des terreaux, c'est la fin de ce débat qui a été magnifiquement mené par nos invités, qui, je le rappelle, Eva Chicon, Marisol également avec nous, Henri Silon.
Merci.
Et j'ai oublié un prénom, mais après tout, on s'en fout, puisque le débat est terminé et qu'il y a eu strictement zéro information. Merci à tous.
Merci beaucoup, William. C'est vrai que nous ne savons toujours pas quel est l'événement marquant de 2023. Peut-être une année creuse, une année inintéressante.
Si c'est maintenant... l'ouverture d'un magasin, ça va.
Oui, c'est plutôt pas mal.
La sortie de mon ouvrage que je viens de dédicacer aussi également.
Tout à l'heure, nous en parlerons, ne vous inquiétez pas. Mais là, tout de suite, nous allons écouter Carolina. Carolina qui a passé tout le mois dernier à regarder l'ensemble des téléfilms de Noël qu'on peut retrouver à la fois à la télévision comme sur les plateformes. Et c'est la chronique coup de cœur.
c'est la chronique coup de cœur de Carolina. Putain, c'est trop bien, c'est trop bien.
Coup de cœur.
Salut tout le monde, je suis hyper ravie de vous retrouver pour vous parler de mon coup de cœur. Alors je peux vous dire que j'en ai mangé, j'en ai fait une boulimie, même une intoxication alimentaire de tous ces films. Mais vraiment, c'est ce que j'adore. Moi, clairement, Mariah Carey, elle est chez moi, en peinture et en poster, toute l'année. Alors là, autant vous dire que l'été, les films de Noël, mais alors, mais quelle jouissance ! Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de mon film préféré qui est Noyeux Joël. On n'avait jamais vu ça auparavant. On a vraiment une équipe incroyable. On a Pierre Niney. Clairement, c'est un espèce de seul en scène qui dure à peu près 1h30 et c'est incroyable. À lui tout seul, il va jouer tous les personnages et on va retrouver finalement tous les classiques, les histoires d'amour, le pudding, le lait ribot. Oui, voilà, c'est ça, le lait ribot avec la dinde, alors qu'on ne mange jamais de dinde. Mais moi, vous savez quoi ? Alors que je suis végétarienne, eh ben, ça m'a donné envie de bouffer de la viandasse. Ça m'a réconciliée avec la bidoche. Donc là, clairement, du poulet. D'ailleurs, j'en mange encore maintenant, hein, donc c'est super. Donc, 1h30 de kiff. 1h30 de beauté aussi. Est-ce que vous avez vu les abdos de Pierre Niney ?
On les a vus, on les a adorés, ces abdos de Pierre Niney. Ils sont incroyables, presque aussi bien que ceux de Pio Marmaille.
Donc surtout, n'hésitez pas à dépêcher-vous parce qu'on peut voir le film gratuitement que jusqu'au 25 à minuit. Ils sont pas mal dans la com. Je vous ai même pas dit où est-ce qu'on peut les regarder. Sur Amazon Flix.
Ça nous donne super envie là.
Bah ouais, si même dans un tel film de Noël, on voit les abdos de Pierre Niney, bah dis donc, je suis pressée de regarder toute sa filmographie. Hein.
Est-ce que je peux avoir une aile, s'il te plaît ? Merci.
Bah merci beaucoup, Carolina. Je pense qu'on va s'organiser une petite soirée téléfilm chez toi très bientôt, si tu acceptes qu'on vienne chez toi.
Avec grand plaisir.
Allez, on amène une bouteille.
Et alors, bah, on a toujours autour de la table Pierre Cillon qui me semblait très impatient de parler de son œuvre. Pierre Cillon, écrivain, hein, qui est surtout connu pour sa grande saga autobiographique À l'ombre de ma lampe. J'aimerais d'abord vous demander, Pierre Cillon, cette lampe, est-ce que vous l'avez toujours ?
Alors, je vous avoue que oui, je l'ai toujours. Et tous les matins, tous les jours, je la regarde. Parce qu'elle a vraiment... C'est le personnage principal de la série. C'est le personnage qui vient donner une ampleur, une dimension au récit. Et il est au-delà des personnages qu'on peut voir dans des romans de seconde catégorie. C'est vraiment le personnage qui gère l'action, qui gère l'intrigue, qui est au centre de tout et qui fait vraiment une sorte de quintessence de ce que le lecteur pourrait espérer en tant que personnage interactif qui viendrait dans son cœur, dans son esprit, dans sa pensée. Pour révéler toutes les questions que le livre soulève, justement.
Et justement, par rapport à un chapitre du livre, je me posais la question, est-ce que vous utilisez vos rêves comme matériau d'écriture ?
Alors bien sûr, le rêve, c'est fondamental, c'est quelque chose de totalement central. J'ai toujours un papier, un crayon à côté de mon lit ou un magnétophone ou les deux, parce que j'aime bien, des fois même, quand je suis en train de noter un rêve, vous voyez, enregistrer ce que je dis en notant, parce que je continue à la fois à écrire et à rêver. Et donc, parce qu'il y a des moments comme ça qui sont entre l'éveil et le sommeil.
Presque la transe.
La transe, voilà, complètement, la transe qui transcende l'écriture. Et j'avoue que avec cette manière, cette approche de créativité, il y a des moments où je ne modifie même plus les textes, c'est-à-dire que je les prends tels quels, tellement l'instant les a générés. Et c'est aussi l'acceptation, comme la lampe accepte.
Et alors, j'avoue, j'avais remarqué hein, cette dimension onirique de votre œuvre dans le premier tome. Alors, j'avoue que 5 tomes, 2000 pages, je me suis arrêtée aux 5 premières pages du premier. Et ce qui m'a quand même intriguée avec cette matière quand même, hein, qui est très dense, c'est comment peut-on avoir autant de choses à raconter ?
Je pense que les gens sont parfois un petit peu distraits dans le quotidien et qu'en fait, quand on prend le temps de regarder... Là, en l'occurrence, une lampe, mais ça peut être toute autre sorte d'objet. Alors, on peut découvrir toute l'immensité, tout l'univers que génère un objet. Et dans une toute petite espace, un tout petit truc ridicule, voir l'immensité de ce qu'on peut envisager en tant qu'être humain. Et dans une sorte d'amour. Cette lampe, finalement, elle est amoureuse des autres. Elle est amoureuse des instants qu'elle apporte et de la lumière qu'elle apporte. Et c'est aussi ça le message. Il fallait bien plusieurs tomes et des milliers de pages pour parler de ça.
Je suis désolée, monsieur Silon, on me dit dans l'oreillette que j'ai écorché votre prénom. Enfin, je sais à quel point certaines personnes peuvent mal le prendre. J'ai cru comprendre dans votre ouvrage que c'était un sujet sensible en plus pour vous. Vraiment, je m'excuse.
Oui, alors moi, je vous en tiens par rigueur, mais bon, voilà, c'était un nom qui a été changé alors que j'avais encore que 5 ans. Et je l'aborde effectivement dans le 4e tome sans lâcher de l'information. Mais voilà,
ça a marqué
il n'y a pas de souci. Oui. Il faut lire le livre, vous comprendrez.
Ça a marqué un peu le début d'un nouveau vous, quelque part, ce nouveau prénom.
Oui, alors c'est un nouveau moi, mais bah c'est vrai que c'était aussi un deuil à faire, vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai écrit tout ça. C'est important d'écrire les choses quand on les ressent, et aussi la relation avec cette lampe-là qui est fondamentale, parce qu'elle m'éclaire quand je me réveille au milieu de mes nuits, et voilà. Et c'est l'amour, il fallait le transmettre aussi via ces romans.
C'est bouleversant, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. À l'ombre de ma lampe, une super idée cadeau pour les fêtes de Noël. Hein. Ça vous fait un cadeau pour cette année, l'année suivante, celle d'après. Bref, 5 années.
C'est écologique.
Je peux prendre cet exemplaire, ça vous embête pas?
Ah oui, allez-y, avec grand plaisir.
Merci.
Il est maintenant l'heure de la pause musicale. C'est Sarah qui nous a demandé cette chanson. Elle la dédicace à Arthur. Voilà, donc elle dit « Arthur, cette chanson, c'est pour toi. C'est tout ce que je te souhaite pour la nouvelle année à venir et les années qui vont venir ensuite. »
La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal, la tristitude. C'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à Nogent le retrouve. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est ouh, c'est eux. Et la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mercose de la princesse de Galles. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier, la tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, 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 la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu la détresse dans la crâne. Qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère siamois t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, la tristitude. C'est devenir styliste mais pour Eddie Mitchell. C'est conjuguer bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, 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 la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu la détresse dans le crâne à moi. Pas du tout, non, 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 la tristitude, la tristitude, la triste la tutule dedans, la triste di 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 di. La tristitude te donne la triste attitude, la tristitude, la tristitude, la tristitude, la tristitude, c'est un peu de tristesse et de solitude, c'est comme de la tristitude plus rien, en tout cas c'est la triste, la triste, la triste, la triste.
C'était la tristitude d'Oldelaf. Je pense que c'est un peu tendu entre Arthur et Sarah. Désolé Arthur. Mais maintenant, passons tout de suite à la chronique mystère avec William.
Mystère. Mystère.
William va nous parler du Yeti. Existe-t-il vraiment ?
La question du Yeti, en effet, est une question vraiment éminemment politique. Il faut savoir que cet être qu'on dit vivre dans les hauteurs des Alpes notamment, mais aussi de l'Everest, on l'aurait aperçu en compagnie de son animal de compagnie qu'on appelle habituellement le Dahu, dans des contrées assez lointaines. Le Yeti est plutôt timide, mais on le dit entre tradition et modernité, à l'image des mondes dans lesquels on vit. Aujourd'hui, le climat se transforme, le Yeti glisse parfois sur des morceaux de neige qui n'ont pas l'habitude de glisser à cette hauteur. Le Yeti donc devient quelque part une espèce qui vient à la rencontre de l'espèce humaine, qui vient déranger le statu quo de l'existence humaine, comme la bipédie par exemple. Il vient bousculer les conventions dans nos sociétés, il vient déranger, il vient briser les chaînes des humains, il vient proposer quelque part aussi un accueil nouveau pour un nouveau type de réfugiés, de ces êtres que on n'a pas l'habitude de rencontrer dans les hauteurs, parce que on se les caille dans ces foutues montagnes, personne n'y va, et les blizzards, ça fait les pénis petits, donc nous préférons ne pas les rencontrer. Cela dit, les Yétis sont porteurs d'espoir. Ils ont su s'adapter très très vite à des changements climatiques qu'on leur a imposés, et ce sans se plaindre, sans demander pardon, sans aucune culture de l'excuse. On peut approcher les Yétis désormais dans les hauteurs de stations de ski en pleine saison aujourd'hui. Ils sont serveurs, ils sont barman, ils sont à votre service, mais nous sommes au leur également.
Merci beaucoup, William. Donc, si je comprends bien, le Yeti existe, c'est ça ?
Absolument, absolument. Les preuves sont indéniables. Il commence à s'insérer dans nos sociétés.
Quelle révélation ! Et là, sur notre antenne, en plus, c'est...
Moi, je confirme, j'en ai déjà rencontré un une fois à une station de ski.
Et oui, mais ils ont l'air timides comme ça, mais quand on les connaît, ils sont extrêmement sympathiques. Hein.
Hyper affectueux.
Bah, continuons dans la lignée de ces créatures qu'on pensait mythique, imaginaire, mais qui en fait existe bel et bien. Nous allons parler du Père Noël, et plus particulièrement de l'usine où sont fabriqués ces jouets. Et oui, c'est réellement une usine, hein, avec beaucoup d'employés qui sont les lutins. Et les lutins sont en grève, à ce que j'ai cru comprendre. Carolina s'est rendue sur place pour avoir plus de détails sur leurs revendications.
Oui, effectivement, je suis en direct juste devant l'atelier des lutins qui ont l'air farouchement en colère. Il semblerait qu'après une demande, une négociation d'augmentation du salaire, le Père Noël ait tout simplement refusé, prétextant
une hausse du carburant de son traîneau. Je vois le référent des lutins se rapprocher. Il va pouvoir nous en dire un peu plus sur leurs revendications.
Moi, ça fait 40 ans que je suis syndiqué au sein de l'usine du Père Noël pour faire les foutus cadeaux pour ces sales mômes. Et je peux vous dire, on trime, on en a marre. Et les camarades derrière, ils veulent faire d'autres choses. Donc, le Père Noël, il doit des comptes aussi à ses ouvriers,
on en a
à ses travailleurs. Et on en a marre, on en a trop.
On est fatigués.
Et effectivement, je vois qu'il vous manque un bras, mademoiselle.
Oui, oui, je...
Vous voulez dire que le Père Noël fait de la maltraitance sur lutin, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Effectivement, là, il y a une preuve concrète, tangible. J'ai perdu mon bras dans la réalisation de jouets en bois. Oui, oui, ça peut paraître absurde, mais le problème, c'est que le Père Noël est un gros radin qui ne fait jamais la maintenance de ses machines. Donc, résultat, il nous envoie comme des cobayes, tout testés, et bah forcément, il bah y a des loupés.
C'est pour ça qu'on a, c'est pour ça qu'on a défini justement 238 points de revendication, l'amélioration, point 1, l'amélioration des conditions de sécurité, point 2, la revalorisation de l'indice horaire pour tous les lutins, surtout pendant la nuit, point 3, des sandwichs avec plus de saumon et de viande et tout, parce qu'au bout d'un moment, il faut avoir des protéines, point 4, il faut avoir des pauses régulières, point, enfin voilà, je ne vais pas vous donner tous les 260 points, mais on a des revendications très claires, le Père Noël, il ne les entend pas, et ça c'est inadmissible.
Mais faites donc une pétition et on va porter haut et fort en fait vos revendications et les gens vont se battre pour vous. En revanche, j'ai une petite question. On va quand même avoir nos cadeaux cette année?
Alors ça, alors je voudrais dire, parce que les cadeaux, vous les aurez, mais alors peut-être il y aura des petits bois dedans pour soutenir la cause. D'ailleurs, on en a envoyé au Yeti et au Dahu pour qu'ils rejoignent la cause, parce que bah, c'est trop difficile dans les créatures de l'imaginaire de travailler comme ça sans arrêt.
Donc si vous voyez des petits mots dans vos cadeaux, lisez-les, c'est important, c'est important.
Vous avez entendu, c'est important, il faut lire les enfants.
Et on a aussi monté une cagnotte Lucci, s'il vous plaît, si vous pouvez nous venir en aide pour qu'on ait des nouveaux bras, ce serait sympa.
La lutte avant les luges ! La lutte avant les luges !
Je vois le Père Noël qui essaye de se cacher au niveau de sa fenêtre. Peut-être que nous pourrons le rapprocher un peu plus tard.
Merci beaucoup, Carolina. Merci d'avoir bravé la neige, la tempête de neige, pour être au cœur de l'action, au cœur de l'information. Alors maintenant, un petit moment détente. Avec le courrier du cœur. What is love?
Pour briser la glace, rien de mieux qu'un peu de chaleur. Voici les courriers du cœur.
Alors, nous avons reçu un courrier pour toi, Charlotte, qui te demande des conseils. Chère Charlotte, je suis complètement désemparée. J'ai besoin de ton aide. Mon ex-petite amie m'a quittée car je lui mentais trop. Nous nous sommes croisés l'autre jour et elle m'a demandé si j'ai changé. Sur le coup, je n'ai rien dit. Penses-tu que je devrais lui mentir pour la récupérer?
Ah, alors là, ça pose une question très intéressante de la communication dans le couple, finalement. Donc, ouais, c'est assez central et ça me touche beaucoup donc cette confiance que cette auditrice a mis en moi et en l'équipe. Donc, reste à savoir si tu as envie de construire une nouvelle relation sur des bases plus saines, avec plus de transparence, ou si tu as envie du frisson qui t'emmène à effectivement parfois changer de version au gré du temps ou au gré de ton inspiration. La question aussi qui est sous-jacente peut-être est celle du dialogue. Et là aussi, je me permettrais de solliciter peut-être l'avis de l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous êtes plutôt frisson de l'imprévu ou communication transparente?
Communication non violente, évidemment.
Bon, ça dépend quelle heure il est, quoi.
Il ne faut pas avoir peur du conflit, hein. Il faut dire les choses, il faut aller frontalement, même en amour.
Faut pas te lâcher.
C'est vrai que parfois, un bon conflit, ça peut quand même permettre de faire sortir plein de choses, plein d'émotions, plein d'énergie. Et des fois, les réconciliations sont chaleureuses.
Quand on s'aime, on se dit les choses.
De toute façon, pas de conflit, en général,
L'ennui.
L'ennui.
Ouais,
bah et oui. Après, c'est fini.
Est-ce que c'est pas ça, le pire ennemi de l'amour? Est-ce que c'est pas l'ennui, finalement?
J'aimerais bien m'engueuler avec vous, du coup.
Ouais.
Du coup, on pourrait dire des choses fausses, faire des mensonges sans raison, juste pour qu'il y ait du conflit.
Mais pourquoi vous mentez, monsieur? Enfin, pourquoi vous mentez?
Oula, je sens là que le ton s'échauffe, c'était pas du tout...
Cœur.
Voilà l'intention de Charlotte. Merci beaucoup hein, pour ta chronique, je pense qu'il a beaucoup aidé notre auditeur. Je vais vous souhaiter bonne fête.
Oh non, c'est déjà fini.
Bah oui, c'est déjà la fin de cette émission.
Ça a passé trop vite.
Je pense qu'on peut se dire à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine. À l'année prochaine. Bonne année. Allez, salut.
Hey.
On se voit en 2024.
Ah oui. Tout beau, tout neuf.
Avec un nouveau marronnier. La galette des rois.
Ouais. Les amandes.
Du lait de poule, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, du lait de poule.
Bonne année et que tous vos vœux soient exaucés, c'est ce que dit toujours ma grand-mère.